C'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Y'en a plus. Oh non, y'a plus de café là.
Attends, on fait après les missions. Le papier n'est pas imprimé là.
Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip, bip, bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
Allez, dernière fois.
Zou.
Allez les gars, courage.
Bonjour à toutes et à tous. On y va. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce vivement plein de plumes, de croissements et de battements d'ailes. Car oui, ce sont les oiseaux qui seront tout à l'honneur dans cette émission. Peut-être que ça fera venir le printemps, je sais pas vous, mais je l'attends quand même. Nous recevons donc Alain Hardy, le président de la Ligue de protection des oiseaux Aveyron. Bonjour Alain.
Bonjour Elsa.
Puis Florian Boulet nous emmènera faire un tour dans les archives poussiéreuses des années 1903. Cette chronique de la Maison de la Mémoire sera consacrée à la grève des gantiers. Et enfin, comme la LPO fête ses 100 ans cette année, on n'a pas tous les jours un siècle quand même, nous avons concocté une petite tambouille musicale pour l'occasion.
Passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Pour le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc, blanc l'innocent. Le sang du poète.
Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler. Un petit baba voleur. Non, 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 non. Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux marcher. Yeah, yeah, yeah. Na 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 nanana, petit oiseau, si tu n'as pas d'air, tu peux rien faire en tant qu'oiseau.
Forte de 45 000 membres, la LPO est aujourd'hui l'une des premières associations de protection de la nature en France. Mais avant de voir quelles actions mène cette association, un peu d'histoire. Alain Hardy, racontez-nous à la suite de quels événements a été créée la LPO.
Oui, ben, c'est bien intéressant de se replonger dans l'histoire d'une association comme la nôtre à l'occasion des 100 ans. Elle a 100 ans, la LPO, c'est la protection des oiseaux, mais au jour d'aujourd'hui, cette association, c'est aussi la protection de la biodiversité. Alors comment tout ça, est-ce que ça a commencé? Ça a commencé au début du siècle, dans les années 1900. Hein. C'était une période un petit peu difficile pour les oiseaux. Il n'y a pas de réglementation à cette époque-là, la protection de la nature, on n'en parlait pas. Et donc, il y avait une habitude qui avait été prise sur la Bretagne, hein, autour de l'archipel des Sept Îles. Et en 1912, donc les chemins de fer de l'Ouest, du Grand Ouest, organisaient de véritables safaris pour abattre ce qu'on appelait les calculos. Donc c'est les macareux moines. Donc ces macareux moines faisaient l'objet d'un tir de, comme le baltrap, si vous voulez, hein, des dizaines de chasseurs, centaines même de chasseurs venaient tirer ces oiseaux avec des pingouins, des macareux, des guillemots, et on retrouvait même les cadavres dans les poubelles de la ville, ce qui a scandalisé des ornithologues déjà investis sur le secteur. Et ils se sont décidés à se structurer un petit peu pour créer en fait un groupe donc pour protéger ces oiseaux. Alors la création de la première réserve ornithologique de France sur l'archipel des Sept Îles date de 1912. Hein, et cet espace a été confié à la Ligue de protection des oiseaux en 1912, qui a été créée justement pour pallier les carences de l'État dans le domaine de la protection de la nature.
D'accord. Donc durant ces un siècle, cinq présidents qui se sont succédés à la tête de la LPO et tous faisaient preuve d'une grande force et d'une grande contestation. Le premier c'était un avocat, le second le propriétaire d'un parc zoologique, puis ensuite un colonel qui affronta les marées noires, un agrégé de physique et aujourd'hui c'est un journaliste. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Alain et qu'est-ce qui a marqué le plus cette époque ?
Mais il y a des noms que le grand public connaît quand même, mais si on reprend un petit peu l'histoire, la personne à qui on doit tout, c'est le premier président qui s'appelle Louis-Anné Magot d'Aubusson, hein, qui était en fait un avocat issu de la Société d'acclimatation de France, qui était une société naturaliste très, très reconnue à cette époque-là. Et donc ça a été le président fondateur qui a vraiment été militant, le premier de nos militants, et qui a créé cette structure de la LPO. Ensuite, on a eu une personne qui s'appelle Jean-Théodore Delacour, qui est tenu la présidence pendant des dizaines d'années, qui nous a amené jusque dans les années 70. Et cette personne-là était aussi très engagée par rapport à la protection des oiseaux, avec aussi un volet à ce moment-là qui prenait en compte l'élevage des oiseaux pour l'ornement, etc. Mmh. Mais il y avait ce volet toujours sur l'oiseau sauvage, donc qui a pris année après année de plus en plus d'importance. Plus récemment, il y a Antoine Rey que on peut, pour les plus anciens d'entre nous, connaissent, puisqu'il a animé des émissions de radio, en particulier avec François et Marie-Lise Delagrange, une émission qui s'appelait Les animaux du monde. Peut-être que ça rappelle quelques souvenirs à quelques-uns. Et puis depuis 1986, c'est Alain Brougrain-Lebourg qui a pris la présidence. À l'origine, il l'avait prise que pour 3 ans, et puis il s'est énormément investi. C'est quelqu'un qui fait vivre notre association d'une façon remarquable et qui a toujours au jour d'aujourd'hui la présidence.
Donc travailler à la LPO, c'est un combat.
Oui, c'est un engagement de tous les jours. Il faut savoir que c'est une association très militante autour de la biodiversité et puis de la protection des espèces, des oiseaux en particulier, c'est notre entrée, mais aussi de toutes les autres catégories d'espèces vivantes. Hein. On s'intéresse particulièrement au milieu qui les héberge et au jour d'aujourd'hui, c'est une association remarquable par son engagement.
Donc travailler à la NPO en tant que président, salarié ou bénévole, c'est aussi une histoire de passion, j'imagine.
Oui, alors ce qui nous motive avant tout, c'est effectivement la passion qu'on a par rapport à l'animal et à la nature en général. Bon, c'est quelque chose qui nous fait vibrer. Au jour d'aujourd'hui, on a le sentiment que cette nature est particulièrement agressée par nos sociétés. Effectivement, on est quelques associations à lutter contre ces agressions permanentes qui menacent et les milieux et les espèces qui vivent.
Alors tu dis justement, ça vous fait vibrer. Qu'est-ce que ça représente pour toi, les oiseaux, Arlin ?
Ben, les oiseaux, c'est avant tout un émerveillement. Hein. L'oiseau, c'est quand même un être vivant qui est particulièrement bien adapté à son milieu, dont le nombre d'espèces est relativement important. Et surtout, finalement, quand on regarde ces espèces dans le détail, on s'aperçoit qu'elles sont parfaitement adaptées à un milieu, qu'ils ont développé des stratégies, par exemple, je pense à la migration ou des stratégies alimentaires tout à fait particulières, que leur métabolisme aussi, leur façon de vivre est très fragile et très lié au milieu naturel dans lequel ils vivent. Et en fait, l'étude de ces oiseaux, de leur biologie, leur façon de fonctionner, de leur reproduction, en fait, très vite nous plonge dans une passion, une découverte qui fait partie des sciences naturelles, qui est vraiment prenante, quoi. Donc après, dès qu'on rentre un petit peu par ce petit bout de la connaissance, eh bien tout de suite on devient fortement interpellé par les agressions justement que subissent leur milieu, et puis un peu la place qu'a pris l'homme sur l'environnement naturel. Et puis on se pose la question de savoir si quelque part on ne doit pas s'investir et lutter contre des excès de nos sociétés pour justement donner la place aux êtres vivants, l'oiseau en particulier, mais tous les autres, dans la société, mais dans la vie aussi qui nous entoure, quoi.
Ça ne s'arrête donc pas aux oiseaux, c'est un combat politique également.
Ah oui, bien sûr. Au jour d'aujourd'hui, si on vient sur ce terrain-là, c'est sûr que dans le discours qui est avancé, c'est le début des propositions de nos candidats, hein, bien cette question de l'environnement naturel, hein, je parle bien de la nature en général, n'apparaît pas du tout. Donc il faut bien que quelque part, le milieu associatif relaie cette question-là, interpelle les élus, et puis fasse des propositions. On a proposé il y a quelques mois, justement, aux futurs candidats, des propositions de la LPO, relayées d'ailleurs par d'autres associations auxquelles on fait partie, pour justement essayer de prendre en compte cette protection de la nature d'une façon beaucoup plus précise. Et aujourd'hui, le temps compte. Donc il faut vraiment un investissement de nos politiques par rapport à ces questions-là.
Ça me rappelle une phrase qui dit « L'environnement, c'est ce qui reste une fois qu'on a détruit la nature ».
Tout à fait.
Donc que serait une émission sans les oiseaux, sans l'aigle noir de Barbara ?
Peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. Son front brillant d'un mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. main, il a glissé son coude. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles et des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir dans un bruissement d'ailes brise son vol pour regagner le ciel. Un beau jour, peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Bonjour, où était-ce?
Alors, chers auditeurs, nous avons trouvé d'où venait la panne technique. C'est que Phil se sert d'une souris pour travailler sur l'informatique, pour envoyer les chansons. Et la souris a très peur des oiseaux, donc ça bug. Donc Alain, je crois que tu voulais revenir un petit peu sur le passé et sur l'histoire de la LPO avant qu'on passe au présent. Je t'écoute.
Oui, tout à fait. En fait, le macareux moine, notre symbole, les petits oiseaux qu'il y a sur notre logo, en fait, ils sont bien représentatifs de l'histoire de notre association. En particulier, si on parle des victoires qu'on a obtenues, et si on revient sur les marées noires, hein, le macareux moine a énormément souffert de ces marées noires. Récemment, on a entendu parler de l'Erika, on a vaincu, donc Total a été condamné, et puis l'armateur aussi a de très fortes sommes. On a touché d'ailleurs au moins 300 000 euros pour la LPO par rapport à ce projet. Mais si on revient un petit peu sur l'histoire, il y a eu trois marées noires qui ont détruit finalement les oiseaux, même quatre avec l'Erika, mais trois qui ont touché le macareux, puisque sa seule population qui reste, c'est à Pérouse-Garec, là, sur les sept îles. En 67, le Torrey Canyon. En 78, la Mococadise. En 80, le Tagno. Si on regarde à chaque fois, à chaque marée noire comme ça, la population, qui était de grosso modo 2500 couples au début, a baissé d'abord à 400 après la première marée noire, puis elle est remontée un petit peu avant la Moco, on est passé de 800 nouvelle marée noire, il n'y en avait plus que 600, un peu plus de 600. Et puis le Tagno, on est passé à quelques centaines de couples et aujourd'hui, il en reste quelques dizaines. Donc, c'est vraiment un symbole de l'érosion de la biodiversité liée aux agressions qu'elle peut subir. C'est un symbole. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a gagné beaucoup de victoires qui nous ont permis de nous positionner avec tous nos adhérents. Tu rappelais le nombre, 45 000 au jour d'aujourd'hui. Par exemple, on peut en citer une de ces victoires, c'est les victoires des refuges LPO. Il y en a aujourd'hui 10 000 refuges LPO sur 17 000 hectares. Le premier a été créé en 1921. Premier refuge LPO. Donc voilà, ça c'est une victoire. On a aussi vaincu ces marées noires, hein, au niveau de ce procès. Aujourd'hui c'est remarquable parce que justement ça va faire réfléchir un petit peu sur les excès liés à ces grandes catastrophes naturelles. On a aussi gagné quelques combats autour de la lutte contre le massacre des tourterelles, hein, qui a été porté par des présidents successifs et Alain ces dernières années. On a toujours des actions en cours sur certaines chasses traditionnelles qui ne sont plus en accord avec la législation et sur lesquelles nous sommes très investis. Il y a aussi toutes les victoires sur les centres de sauvegarde, on en pourrait en lister, et puis peut-être une espèce emblématique, comme ce qu'on fait qui peut représenter quelque chose que l'on fait sur les espèces, comme le faucon pèlerin par exemple. Il faut savoir que cette espèce-là est restée 120 couples dans les années 70 120 couples en France. Et suite à toutes les actions qui ont été relayées sur tout le territoire, au jour d'aujourd'hui, c'est une espèce qui a bien reconstitué ses effectifs. On a actuellement 1300 couples. On surveille les nuits, on protège. C'est vraiment des actions de protection, d'investissement de tous les jours pour essayer de préserver les nichés, etc. Effectivement, c'est un prédateur d'oiseaux, lui. Il ne mange pas les souris. Mais on pourrait aussi parler des milans royaux qui, effectivement, consomment des micro-mammifères et qui font aujourd'hui l'objet d'une action très forte au niveau national. Voilà, alors on peut parler des actions portées par la LPO à l'heure actuelle. Elles sont très, très nombreuses. Elles s'articulent autour de la protection des espèces, la protection des milieux qui les accueillent, de l'éducation à l'environnement, hein, tout ça c'est des grands chapitres qu'on relaie.
Beaucoup de sensibilisation justement.
Voilà, oui, beaucoup de sensibilisation, et cette année dans le cadre du centenaire, on va multiplier ces actions de sensibilisation pour aller vers le grand public, faire connaître toutes ces actions que l'on mène partout en France, relayées dans plus de 70 départements au niveau national, hein, puisqu'on couvre presque toute la surface maintenant du territoire national. Et donc le fait de communiquer avec les gens nous permet aussi d'augmenter, c'est le but, hein, le nombre d'adhérents qui partagent nos valeurs et nos idées, et d'avoir une influence de plus en plus importante par rapport à la prise en compte de ces questions par nos sociétés, quoi.
Actuelles. D'accord. Et en fait, à l'heure actuelle, quels sont encore les risques ou les menaces qui pèsent sur les espèces,
hein? À l'heure actuelle, le gros risque, c'est finalement la disparition des milieux naturels et l'agression de nos sociétés sur ces territoires. Au jour d'aujourd'hui, nos sociétés se développent, ont besoin de plus en plus d'espace. L'urbanisation galopante est quelque chose de dramatique par rapport au milieu naturel. Alors on a réagi en créant des îlots de biodiversité, hein, des réserves naturelles, des zones protégées. Alors en soi, c'est super, hein, de créer une réserve naturelle. On va protéger le territoire, le milieu, sa biodiversité, l'étudier. Les scientifiques travaillent dessus. Ce sont des milieux protégés. Ceci dit, lorsqu'ils sont isolés, sans connexion, ces milieux, finalement, voient leur biodiversité s'éroder. Donc, il faut absolument que ces milieux soient connectés entre eux. Et aujourd'hui, grâce au Grenelle, mais peut-être pas assez relayé dans les faits, le fait de connecter ces milieux par ce qu'on appelle la trame verte et la trame bleue, hein, qui doit être relayée par les structures et les collectifs locaux. Hein. Donc cette trame verte et bleue doit permettre de connecter ces milieux. Bon, ce projet qui consiste à répertorier puis ensuite protéger ces trames naturelles patine un petit peu, et il faudrait vraiment que les collectivités locales viennent vers nous si elles ont des difficultés à mettre ça en place, parce qu'on a de l'expertise et on peut les aider à mettre en place ces mesures pour protéger un petit peu ces milieux de connexion qui permettent aux îlots de biodiversité de pouvoir perdurer. Mais là-dedans, on a tout à fait tous les milieux naturels. Je pense particulièrement aux milieux qui sont gérés par les agriculteurs. Tous les milieux agricoles font partie des milieux qui permettent ces connexions entre les territoires préservés. Donc c'est très important que sur la globalité du territoire, on ait un environnement qui soit pris en compte et protégé.
D'accord, donc quand je t'écoute, je me dis finalement ce qui tue le plus les oiseaux, c'est pas le froid ou les événements naturels, mais c'est bien l'homme, la menace principale.
Oui, effectivement, mais vient se rajouter tous les problèmes climatiques qu'on a au jour d'aujourd'hui. Alors, dans les actions qu'on mène, je peux rebondir sur celle-ci avec le Muséum d'Histoire Naturelle. Récemment, on vient de publier une étude sur l'influence de l'évolution du climat. Où, par exemple, on voit très bien que le climat a augmenté, finalement, l'augmentation, on entend, des températures, etc. Donc le climat a progressé de 230 km vers le nord. Et les espèces, elles, alors, ont progressé moins vite. Par exemple, si on étudie les oiseaux, ils ont progressé de 70 km simplement vers le nord. C'est-à-dire que les espèces plutôt méditerranéennes sont remontées de 70. Et les papillons, que de 50, par exemple. Donc, parce que oui, la LPO, avec d'autres, on s'occupe aussi des papillons. Donc, ces espèces remontent vers le nord, mais moins vite. Donc, si les milieux ne sont pas connectés, on parlait tout à l'heure des trames, bien forcément, il va y avoir des barrières et on va perdre de la biodiversité. Et les espèces vont disparaître aussi parce qu'elles ne seront plus adaptées à ce milieu. Alors les oiseaux, effectivement, volent et se déplacent, donc c'est peut-être pas le cortège des espèces les plus menacées, mais si on parle des insectes qui se déplacent quand même moins rapidement, ou des micro-mammifères, ou d'autres espèces ayant des potentiels plus limités au niveau des déplacements, c'est compliqué, quoi. Donc il y a un problème écologique de base qui vient se rajouter à l'agression des milieux que nous faisons nous-mêmes, et aussi tous les problèmes liés à l'environnement général. Le climat, on vient d'en parler, mais les pollutions qui posent vraiment un problème. Et puis des aberrations, hein, au jour d'aujourd'hui, quand on regarde l'utilisation des pesticides, ça pose quand même vraiment des questions, des pesticides, ouais.
D'autant plus fort, en plus, avec le gruiseur, enfin, il y en a des nouveaux qui vont arriver.
Il y a vraiment des aberrations. Aujourd'hui, on veut lutter contre ça. Hein. Je reprenais des chiffres ces jours-ci, où, pour les milans royaux qui hivernent chez nous, en Aveyron. Bon, on a tout un réseau qu'on a mis en place pour pouvoir étudier un peu les causes de mortalité. Et on s'aperçoit que la bromadiolone qui est utilisée pour lutter contre les campagnols qui ravagent un petit peu le nord du département, pour ce qui nous touche, nous, aujourd'hui, cette bromadiolone tue des prédateurs, les milans, et on a trouvé jusqu'à 40 milans morts de ce produit au niveau national.
Alors ça, ils s'empoisonnent à force de manger les rongeurs.
Voilà, des rongeurs qui ont été détruits par ce produit. Bon, en Aveyron, pour rebondir sur cette question-là, on a même trouvé des produits comme le mévinfos ou le carbofuran, qui sont des produits qui sont interdits depuis plusieurs années. Et bon, avec l'équipe là de la LPO Aveyron, on marque les milans royaux pour suivre leur déplacement et connaître un petit peu leur biologie, et puis pouvoir mieux les protéger demain. Et en allant marquer justement une nichée, on s'est aperçu que la nichée était morte suite à une intoxication avec ces produits. Donc c'est quand même particulièrement choquant de voir qu'aujourd'hui, l'usage irraisonné de ces pesticides détruisent des espèces dont on va avoir besoin demain pour réguler un petit peu tous ces problèmes écologiques, quoi.
Donc vous, la LPO Aveyron, vous êtes située où ?
Alors nous, au niveau du département, on est situé à Aunay-le-Château, le siège social, mais on a des bénévoles sur tout le territoire départemental. Il faut savoir qu'en Aveyron, on est structuré, il y a deux entités LPO, la LPO Aveyron, donc l'association locale, et puis l'antenne LPO qui fait partie de la LPO France, Mission Rapace, et qui s'occupe de la réintroduction des vautours avec un grand projet pour le centenaire qui sera le lâcher des premiers gypaètes, hein, quatrième espèce de vautour du département. J'espère au début de l'été.
D'accord. Donc en fait, pour les particuliers qui nous écoutent, on peut soit devenir adhérent de l'association, créer un refuge LPO, on n'aura pas le temps de tout détailler dans une émission si courte. Mais pour finir sur la LPO, vous savez que les oiseaux, c'est pas seulement ce qu'on mange ou qu'on regarde, on mange pas du poulet, de la caille, il n'y a pas que ça. C'est aussi un grand symbole pour l'être humain depuis longtemps. L'aigle, c'est tout ce qui est la majesté, la colombe, la paix. Voilà, symbole de liberté. Et bien des poètes l'ont chanté. Et on va mettre un petit poème de Charles Bukowski, L'oiseau bleu.
Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir. Mais je verse du whisky dessus et inhale une bouffée de cigarette. Et les putes, et les barmen, et les employés d'épicerie ne savent pas qu'il est là. Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir. Mais je suis trop coriace pour lui. Je lui dis, tiens-toi tranquille. Tu veux me fourrer dans le bordel? Tu veux foutre en l'air mon boulot? Tu veux faire chuter les ventes de mes livres en Europe? Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir, mais je suis trop malin. Je ne le laisse sortir que de temps en temps la nuit, quand tout le monde dort. Je lui dis, je sais que tu es là, alors ne sois pas triste. Puis je le remets, mais il chante un peu là-dedans. Je ne laisserai pas tout à fait mourir, et on dort ensemble, comme ça, liés par notre pacte secret. Et c'est assez beau pour faire pleurer un homme, mais je ne pleure pas. Et toi ?
Alain Hardy, voilà les 100 ans de la LPO cette année, quel projet pour l'avenir ?
Bien, pour l'avenir immédiat, c'est de fêter ce centenaire. Donc ce centenaire LPO va regrouper pas mal d'actions. Alors Au niveau national, il y a plein de choses qui vont être faites. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps pour toutes les énumérer, ben, je vous renvoie au site du Centenaire. En tapant Centenaire LPO sur Internet, ben, vous allez trouver plein d'informations sur les actions nationales. Moi, je vais vous parler un petit peu des actions qu'on va avoir localement. Donc, le 23 mai, on va projeter un film sur l'histoire de la LPO, un film d'une heure, là, qui a été réalisé par Alain Bougrain-Dubourg, qui reprend un petit peu quelques éléments et puis qui va compléter tout ce qu'on vous avait dit aujourd'hui sur l'histoire de la LPO, avec, j'espère, une conférence autour de ce film. On va inaugurer aussi un refuge LPO de la ville de Rodez, qui est quand même la grosse ville du département, avec une inauguration officielle de son refuge LPO. On va aussi le faire sur la commune de Millau, sur la communauté de communes de Millau, en inaugurant trois sites refuge LPO autour de la commune de Millau.
Refuge LPO, est-ce que tu peux juste rappeler ce que c'est pour les auditeurs ?
Le refuge LPO, c'est l'adhésion à une charte qui invite le propriétaire du refuge ou la commune à prendre en compte la biodiversité sur son territoire. Voilà, donc tous les aménagements qui vont être réalisés prennent en compte. On peut aussi aider en plaçant des gîtes à faune, des nichoirs, en menant des actions de sensibilisation, un petit peu prendre en compte toute cette biodiversité de proximité, on va dire. On peut parler aussi d'une action qu'on va avoir ici sur Saint-Africain au mois de mai. Donc, et de juin. Alors, au mois de juin, le 16 juin plus particulièrement, on va avoir une action qui s'appellera, puis qui va être relayée d'ailleurs par Radio Saint-Afrique, qui s'appellera 100 ans, 100 espèces. Donc, l'idée, c'est d'inviter le grand public saint-africain, les gens à venir nous voir, discuter avec nous, puis participer à une journée autour de la découverte de la biodiversité du Saint-Africain. Et on va faire ça avec d'autres groupes au niveau départemental, un groupe sur Millau, un groupe sur le Villefranchois, puis on va se mettre un petit challenge où chaque groupe va essayer de trouver une centaine d'espèces dans toutes espèces confondues, hein, dans le territoire de la commune, le plus vite possible. Donc on va organiser des petites sorties autour de cela.
D'accord, merci Alain. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent savoir plus, vous pouvez bien sûr aller sur le site de la LPO. Il est l'heure de laisser place à la chronique de la Maison de la Mémoire. Attachez bien vos ceintures pour un voyage dans le temps.
A 246. Chronique de la Maison de la Mémoire.
Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un événement qui s'est déroulé en 1903 et qu'on a retrouvé dans les journaux, dans le journal qui s'appelait L'Écho de Saint-Afrique, et qui est la grève des gantiers de Saint-Afrique. Tout d'abord, ce n'est pas la première grève qui a eu lieu à Saint-Afrique, parce que dans les diverses archives, on en trouve la première qu'on ait trouvée, c'est 1847, alors même que c'était interdit, et où ils appellent ça coalition. Et après, tout le reste du 19e siècle, on en trouve encore. Mais ce qui est un peu spécial avec celle-ci, donc celle des gantiers en 1903, c'est la première que l'on peut suivre au travers des journaux successifs, des hebdomadaires chaque semaine. Il y a un petit article sur cette grève-là. Donc c'est ce qui nous a intéressés. Et donc grâce à ces journaux, donc on peut suivre toute la grève. Donc depuis le début de la grève, qui apparaît dans le numéro du 30 mai, où le journaliste en fait informe la population qu'il y a un conflit entre les patrons et les ouvriers gantiers de Saint-Afrique. Il dit qu'il y a, donc c'est la grève générale, mais qu'a priori ça ne va pas durer longtemps. Dans cet article, il nous apprend qui sont les grévistes. Alors ce sont les ouvriers gantiers, mais c'est des ouvriers assez spécialisés, ce sont ceux qui sont chargés de découper les peaux, pour découper les pièces dans les peaux qui ensuite seront cousues pour faire des gants. Quant au patron, on apprend dans un rapport du préfet, qui sera daté de novembre 1903, qu'ils sont au nombre de 5 sur les 6 que compte la ville. Et enfin, le déclenchement de la grève, le journal nous apprend que c'est à cause de la mise en place d'un nouveau tarif pour la coupe des gants. Et en fait, on a retrouvé une lettre, un rapport plutôt du commissaire de police de Saint-Afrique, qui est daté donc du 26 mai, c'est-à-dire 4 jours avant le journal, et qui en fait est un peu plus explicite, puisqu'il nous dit que les patrons s'étaient réunis quelques jours avant et s'étaient mis d'accord pour mettre en place un tarif uniforme pour la coupe des gants à la douzaine. Parce qu'en fait, ils étaient payés à la douzaine de gants qui étaient découpés. Et selon la catégorie de gants, donc il y avait vraisemblablement des gants pour hommes, des gants pour femmes, diverses utilisations, il y avait une baisse de 25 à 50 centimes par douzaine. Ça pourrait sembler pas beaucoup, mais en fait, quand on regarde le rapport, il précise aussi que le salaire journalier d'un gantier, c'est 2,50 francs. Donc pour la catégorie à 50 centimes, ça fait quand même une sacrée baisse. Et ensuite, petit à petit, en passant les journaux, donc qui sont publiés toutes les semaines, on va suivre la grève. Alors dans l'article du 13 juin, donc 15 jours après, on découvre un petit peu l'organisation de la grève et des grévistes qui ont formé un comité. Le comité se charge d'organiser le mouvement, mais dès le début, il pourvoit aussi aux besoins des grévistes. Dans l'article, il précise que, par exemple, le comité va organiser la distribution des aides qu'ils ont reçues des différentes villes gantières du pays et du département, et il précise notamment de Millau et Grenoble. Parce que la ganterie et le cuir en général, c'est des activités où les travailleurs se sont très vite organisés, dès la moitié du 19e, on va dire, pour ensemble on est plus fort et on peut se soutenir. Donc ça a commencé avec les mutuelles, etc., puis les syndicats dès qu'ils ont pu. Et donc du coup, la solidarité, elle se fait au niveau départemental, mais même national. Donc dans ce même article du 13 juin, on commence à percevoir des conséquences de la grève qu'on n'imaginerait pas tellement. Parce qu'il précise de façon assez laconique que les ouvrières qui sont employées dans les ateliers sont encore occupées, mais elles vont bientôt être au chômage, quoi, sans travail. Et en fait, c'est le rapport du préfet, quelques mois plus tard, qui nous fait prendre la mesure de cette petite info. C'est qu'il y avait seulement 67 ouvriers en grève, enfin seulement, c'est déjà pas mal, alors que la ville en comptait 78. Mais en fait, de leur travail à eux, dépend le travail de 200 à 300 couturières, brodeuses ou celles qui mettaient les boutons. Et donc forcément, s'il n'y a plus de gants découpés, elles n'auront plus de travail. Donc on comprend l'angoisse un petit peu, tant des journalistes que celle qui transparaît auprès de la population, et même des autorités, puisque dans cet article-là, le journaliste nous apprend que le juge de paix, donc celui qui s'occupe de la petite justice, on va dire, va intervenir pour assurer la médiation entre les parties, entre patrons et ouvriers, pour essayer de trouver une solution au conflit. Ensuite, dans les numéros qui vont se suivre, petit à petit, on va s'orienter vers la sortie de la grève, mais on va aussi découvrir la stratégie des ouvriers, puisque dans le journal du 20 juin, donc presque déjà un mois de grève, le juge de paix s'est déclaré incompétent. Donc c'est aux ouvriers, aux patrons de se débrouiller pour trouver une solution. Et pour cela, les ouvriers ils peuvent compter sur l'appui et l'aide d'un syndicat qu'ils ont créé, qui est l'Union syndicale des ouvriers gantiers de Sainte-Afrique, qui dès le début de la grève apparemment joue son rôle de catalyseur et puis d'organisateur. Alors même qu'en fait, donc là on est en juin 1903, et le syndicat n'avait été créé qu'en juillet 1902. Et malgré tout, il reste efficace et ce serait pas idiot de penser qu'ils ont pu profiter aussi de toute l'expérience des différents syndicats qu'il pouvait y avoir à Millau ou dans les autres villes avec lesquelles ils étaient forcément en relation étroite. Pour compléter ces infos, le rapport du commissaire de police qui a été fait le 26 mai est assez intéressant parce qu'on y apprend en fait comment tout s'est passé. C'est-à-dire que on était le 26 mai, ça faisait déjà quelques jours que les patrons avaient affiché dans les ateliers le nouveau tarif. Les ouvriers s'y étaient opposés, ils s'étaient réunis. Ils avaient élaboré leur propre tarif à eux, avec déjà l'idée qu'ils en demandaient un petit peu plus, mais c'est écrit mot pour mot, seulement pour se garder une marge de manœuvre dans la négociation avec les patrons, et du coup s'assurer à minima du maintien des tarifs anciens, quoi. Et du coup, ils ont désigné 5 personnes pour aller dans chacun des 5 ateliers, négocier avec les patrons, et ensuite continuer à travailler jusqu'au 30 mai, donc la date du premier journal, pour faire un rapport des discussions et savoir quelle suite à donner à leurs revendications, on va dire. Et du coup, comme les négociations ont dû apparemment échouer, ils ont décidé de se mettre en grève, comme le dit le tout premier journal. Mais malgré tout, la stratégie qu'ils avaient élaborée, donc d'un tarif augmenté, ça va assez rapidement porter ses fruits dans le bon sens pour eux. Parce que dans le numéro du 27 juin, un mois après le début de la grève, on apprend qu'il y a un des patrons qui a accepté ce nouveau tarif. Et alors, un, c'est pas beaucoup, mais ce qui est intéressant pour eux, c'est que c'est un des deux plus importants de la ville. Et alors là, du coup, le comité donc de la grève envisage de reprendre le travail. Et puis finalement, après discussion tous ensemble, ils décident de ne pas reprendre le travail, avec pour argument de dire que si les patrons se sont réunis entre eux pour élaborer un nouveau tarif diminué, eh ben, ils ne reprendront pas le travail tant que les mêmes patrons ne se seront pas réunis entre eux pour adopter le nouveau tarif. Donc la grève continue. Ce qui montre bien leur détermination, malgré les difficultés que pouvait causer la grève pour eux, parce que du coup c'est autant de salaire de perdu, et on a bien vu que le salaire n'était déjà pas énorme. Et pourtant, dans les articles après qui vont suivre, on va voir apparaître des moyens pour surmonter toutes ces difficultés. On le voit notamment dans le numéro de juillet, où on apprend que, en fait, les ouvriers gantiers de Millau ont envoyé des pots à Sainte-Afrique pour permettre aux gens de travailler, mais de travailler pour ceux de Millau, hein, pour découper les pots, pour les renvoyer à Millau. Et que d'autres ont été employés sur un chantier communal. Ça se faisait très régulièrement quand il y avait des chômages saisonniers. On essayait de trouver du travail aux chômeurs, et souvent c'était l'entretien des chemins, des routes, etc. Ensuite, donc on était en début juillet, à la fin du mois, on voit une autre action du comité apparaître, mais qui va aussi démontrer leur détermination et leur solidarité. C'est que le comité a autorisé les ouvriers à reprendre le travail dans l'atelier du patron qui a accepté leur tarif, mais à deux conditions. La première, c'est qu'ils doivent employer 10 de leurs collègues, tour à tour, et ensuite que le produit de leur travail devra être reversé à la caisse commune et ensuite partagé équitablement entre tous les grévistes. Malgré tout, on voit que la grève continue, notamment le 25 juillet, où on apprend qu'il y a eu ce qu'ils appellent un défilé dans les rues de la ville, donc une manifestation, où en fait donc les gantiers ont défilé en chantant l'International. Le journaliste lui-même le dit, il a été surpris, lui, mais aussi toute la population, par toute la cohésion et la solidarité dont faisaient preuve ces ouvriers. Ce qu'on a vu nous transparaître, mais qui apparemment là était pour eux assez flagrant. Ensuite, on en arrive donc au mois d'août, où le premier du mois d'août, on apprend qu'un second patron a accepté le nouveau tarif des ouvriers. Et là aussi, donc ça fait toujours que 2 sur 5, mais le second, c'est le second plus important de la ville, donc les deux plus gros patrons ont accepté. Là par contre, le comité a voté et autorisé la reprise du travail dans son atelier. Malgré tout, la grève continue, puisqu'ils informent aussi que le comité va organiser une nouvelle distribution d'aide. Et on apprend aussi, d'ailleurs, preuve encore une fois de leur détermination, que en fait, 6 ouvriers avaient rompu leur accord avec le comité et avaient frauduleusement repris le travail, et du coup, ils ont été un peu mis à part du comité. Donc la grève continue, et pourtant, en fait, c'est le dernier numéro qui parle de cette grève. Par la suite, on n'en entend plus parler, comme si elle était terminée. Mais en fait, si on reprend le rapport du préfet et celui du commissaire de police, on apprend que la grève, elle a duré encore un mois, jusqu'au 6 septembre. Donc ces deux rapports, ça met en évidence donc les vérités, mais aussi les silences des journaux, enfin des articles de journaux. Parce que tout d'abord, ils expliquent que le gang, et c'est là on comprend aussi pourquoi il y a eu autant d'articles et apparemment pourquoi la population était à ce point inquiète, c'est qu'à ce moment-là, l'industrie du gang et du cuir, c'était une des principales de la ville. Le textile était déjà, qui avait été important un siècle avant, commençait à s'essouffler. Puis on l'a dit au tout début, ça représentait quand même plusieurs centaines d'emplois. Par contre, ce que retranscrit bien le journal, c'est l'importance du syndicat. Et comme le dit le préfet d'ailleurs, c'est lui qui a été l'âme du mouvement, qui en a assuré l'organisation, la cohésion, au point que la population, comme on l'a dit, a été frappée par cette détermination et cette solidarité. Que du coup, on l'a vu, l'efficacité dans la négociation, etc., elle a été couronnée de succès. D'autant plus qu'au départ, on craignait une baisse de salaire, et puis en fait, en sortie de grève, les ouvriers ont gagné 25 centimes de salaire en plus journalier. Le préfet précise aussi que grâce à ce succès-là, Alors que le syndicat était tout jeune, puisqu'il avait juste un an, les adhésions ont augmenté et qu'a priori, ça va pas se terminer. Ce mouvement-là va pas se terminer comme ça, quoi. Donc, en conclusion, cet épisode-là, bon, il est intéressant parce que c'est à la fois un mouvement qui est assez emblématique de son époque, parce que quelques années après, je pense en 1911, il y aura une grande grève à Millau, pareil, des rentiers, mais avec plus d'ampleur et de moyens. Mais c'est aussi un bon exemple d'un petit climat social local dans une des industries les plus importantes pour notre région. Et en même temps, ça révèle aussi l'importance de croiser les sources, de les diversifier, de ne pas s'en tenir en l'occurrence qu'au journal, parce que sinon on serait passé à côté de pas mal de vérités qui ne sont pas dites dans les journaux. Et c'est quelque chose que l'on retrouvera aussi à d'autres occasions par rapport à d'autres événements.
Chronique de la Maison de la Mémoire. Avec la participation de toute l'équipe de la Maison de la Mémoire du pays saint-africain, Florian Boulet, Sophie Roumégous, Julien Cossat, Delphine Diez, Stéphane Géniès.
Alain, un petit mot de la fin ?
Oui, ben, le mot de la fin, ce sera pour nous aider. On a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc, pour que nos victoires construisent l'avenir, rejoignez-nous.
Merci. Merci à Alain Hardy, président de la LPO Aveyron, avec qui nous avons fait un joli tour d'horizon avec les oiseaux. Merci à Florent Boulet pour sa chronique de la Maison de la Mémoire. Et enfin, merci à Philou à la technique. Côté musique, vous avez pu entendre dans la mixture ailée des extraits de plusieurs chansons, dont Vox Angelis, La Compagnie Créole, Marie Myriam, Gad Elmaleh et la chanson de Gavroche. Puis bien sûr, L'Aigle Noir de Barbara. Et enfin, L'Oiseau Bleu, un poème de Charles Bukowski. Demain, on fait place au Tonton Flingueur. On se retrouve donc vendredi pour une matinale ensoleillée. N'oubliez pas, Radio Sainte-Afrique, c'est une association. Nous vous invitons donc nombreux à venir à notre Assemblée Générale le samedi 25 février à la salle du CAC à 10h. Bonne soirée, journée à toutes et à tous sur Radio Sainte-Afrique. We'll be right back.